Radio Okapi.
Madame, Monsieur, bonjour. Le Forum national des affaires coutumières est à son deuxième jour ce mardi à Kinshasa. Il planche sur le renforcement de l'autorité coutumière pour asseoir la cohésion des communautés, ramener la paix et développer le pays à la base. Et puis, ce fait insolite dans les secteurs judiciaires en Ituri. Cela fait déjà 2 ans et demi qu'aucun procès pénal n'a eu lieu au tripé de Mambasa, faute de juge. Conséquence, des centaines de prévenus croupissent en prison. Certains meurent sans être jugés. Notre invité est Paul Kabingwa, directeur de ressources humaines au secrétariat du ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire. Il nous parle de la mission qu'il vient d'effectuer au Maniema pour faire le suivi de la campagne apicole 2025-2026. Bienvenue à cette édition du journal. Le renforcement de l'autorité coutumière gage de la stabilité, du développement, de la sécurité, de la cohésion des communautés en République démocratique du Congo. Tel est le thème du Forum national des affaires coutumières lancé hier lundi à Kinshasa par le président de la République. Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, ce forum vise à organiser et transformer les entités coutumières en véritable pôle de développement à la base. D'autres détails avec vous, Alain Hirung.
Pour le président de la République, le Forum national des affaires coutumières doit doter le pays d'un cadre réglementaire moderne de gouvernance des affaires coutumières. Félix-Antoine Tshisekedi.
L'enjeu aujourd'hui est de passer du cadre juridique à la pratique, du texte à la gouvernance quotidienne. Comment garantir une succession coutumière légitime et apaisée? Comment mieux articuler l'autorité coutumière avec l'administration territoriale, la justice, les services fonciers, les secteurs des mines, de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement.
De son côté, le vice-ministre des Affaires coutumières, autorité traditionnelle lui-même, a plaidé pour l'implication du pouvoir coutumier dans la mise en œuvre du projet écologique Couloir Vert Kivu-Kinshasa, Jean-Baptiste Ndézé.
Pour que ce projet soit un succès, la capacitation des entités opérationnelles décentralisées représente le point clé.
Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, les participants suivront des sessions réparties dans plusieurs thématiques, notamment la décentralisation, le développement local, la gouvernance coutumière et sécuritaire.
Merci Alain Hirung. Sanctions américaines contre l'armée rwandaise et 4 de ses officiers. La coalition Amani Kwawote, qui signifie paix pour tous, active dans la province du Sud-Kivu, salue ces sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique. Dans un communiqué signé par son modérateur, la coalition estime que cette décision constitue une reconnaissance internationale des souffrances vécues par les populations du Nord et du Sud-Kivu. Jean-Chrysostome Kidjana appelle le gouvernement américain à aller au-delà de ces mesures symboliques et à maintenir une pression maximale jusqu'au retrait effectif des soldats rwandais du territoire de la République démocratique du Congo. On l'écoute.
Nous saluons cette reconnaissance, mais nous aurions souhaité qu'il puisse demeurer dans une politique de tolérance zéro envers ce pays qui est en train de mettre à mal la stabilité en RDC pendant plus de 30 ans, mais également dans toute la sous-région des Grands Lacs. Aux États-Unis, à l'administration du président Donald Trump, de recourir à tous les moyens, y compris à des contraintes pour obliger les Rwandais de retirer toutes ses troupes de la République de moitié du Congo et de cesser tout soutien à des groupes insurrectionnels qui mettent à mal la stabilité, la paix, la quiétude dans toute la sous-région des Grands Lacs. Donc nous pensons que au-delà des sanctions, ça pose déjà des jalons pour que la justice internationale puisse sévir dès à présent contre tous ceux responsables qui ont été à la base de ces millions de morts, de ces millions de femmes, de nos enfants, de nos filles, de nos mères qui ont été violées, les viols étant utilisés comme une arme de guerre.
Et ces sanctions ciblées constituent un moyen de pression et de dissuasion que les États-Unis exercent à l'égard du Rwanda qui refuse de respecter ses engagements signés à Washington en apportant son soutien à la rébellion de l'FCM-23. C'est ce qu'estime Frédéric Amani, expert en relations internationales. Il souligne toutefois que ces sanctions à elles seules ne suffisent pas à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. On écoute Frédéric Amani, joint par Alain Hirung.
Les sanctions américaines à l'égard de certains officiers rwandais pourraient avoir des effets positifs
sur la recherche de la paix dans la région du Grand Lac dans le cadre du processus de Washington par une bonne articulation des instruments diplomatiques combinant coercition et incitation. Par incitation, je fais allusion au dialogue. Il faudrait que la communauté internationale ou les partenaires des États de la région du Grand Lac arrive à réunir tous les États de la région autour d'un dialogue franc pour essayer de déceler le malentendu des revendications des uns contre les autres. Ensuite, les sanctions ciblées sont une bonne chose, un moyen de réprobation des États-Unis à l'égard du Rwanda. Mais il faut aussi admettre que seules les sanctions ne suffisent pas pour résoudre un conflit. Il faut, n'est-ce pas, associer d'autres efforts significatifs aux sanctions pour que la paix et la sécurité soient restaurées et que les civils ne continuent pas à mourir.
Pendant ce temps, sur terrain au Nord Kivu, la situation est restée particulièrement tendue aujourd'hui mardi dans plusieurs villages du groupement Bachalikaembe au nord-est du territoire de Masisi. Selon des sources locales concordantes, de violents affrontements ont opposé jusque tard dans la soirée hier lundi des combattants de l'FCM-23 aux miliciens Wazalendo dans les agglomérations de Niamitaba et Mueto. Jusqu'au-delà de 21h heure locale, des tirs d'armes automatiques étaient encore entendus dans la zone, alimentant l'inquiétude parmi les habitants de ces localités ainsi que dans les villages voisins de Boussié, Kalongé et même Kilo-Riroué, le long de la route Sake-Kichanga. Plusieurs familles ont commencé à quitter le lieu, rapportent nos sources. Et puis ce fait insolite dans les secteurs judiciaires en Ituri, Tene. Cela fait déjà 2 ans et 6 mois qu'aucun procès pénal n'a eu lieu au tribunal de paix de Mambasa. À la base, le manque de juges dans cette juridiction. Conséquence, des centaines de prévenus et détenus croupissent dans la prison centrale de ce territoire situé à 165 km au sud-ouest de Bunia. D'autres meurent sans connaître leur sort à la suite des conditions déplorables de détention. Des activistes locaux de défense des droits humains parlent de violations graves des droits de l'homme. Ils plaident pour l'organisation des chambres foraines et l'affectation de juges pour mettre fin à cette situation. Explication avec vous, Martial Kizabiamungu.
Le tribunal de paix de Mambasa fonctionne avec un seul juge depuis plus de 10 ans dans une juridiction pourtant confrontée à des problèmes sécuritaires et des banditismes urbains. Faute de juges, ce tribunal n'est pas en mesure d'organiser des audiences en matière pénale. Selon des activistes locaux des droits de l'homme, cette situation est à la base de détentions prolongées et irrégulières des prévenus, cela en violation des droits reconnus à toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable. Ces acteurs de la société civils se disent préoccupés par cette situation qui viole les droits humains et met gravement en danger la vie de plusieurs prévenus dans la prison centrale du Mambasa. Ils plaident pour une affectation rapide de juges dans cette juridiction et demandent à la MONUSCO d'appuyer l'organisation des chambres foraines à Mambasa Centre, comme elle vient de le faire dans les territoires d'Aru. Jospin Paloukou, l'un d'eux.
Que le Conseil supérieur de la magistrature puisse songer le plus vite possible en nous déployant quelques nouveaux juges pour accompagner le juge président qui est seul là-bas, afin que les procès en matière pénale soient organisés.
Nous n'avons pas encore la réaction du président de la Cour d'appel de l'Ituri à ce sujet. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Nous sommes dans la province du Tanganyika. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé hier lundi au lancement officiel des cantines scolaires à Kalemi. L'objectif est d'assurer l'alimentation des élèves pour lutter contre la faim en milieu scolaire. Il s'agit d'une réforme du gouvernement dans les secteurs éducatifs. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, célébrée le 1er mars à l'initiative des Nations Unies. Nous faisons le point avec vous pour la Munanga.
La chef du gouvernement a procédé au lancement des cantines scolaires à l'école primaire Kifungo qui compte près de 250 élèves. Cette initiative vise à lutter contre la faim en milieu scolaire. La première ministre Judith Suminwa a déclaré qu'un pays se transforme avec des enfants en bonne santé, instruits et confiants. Il est question de consolider la gratuité de l'enseignement primaire public grâce à la distribution quotidienne d'au moins un repas équilibré. Signalons que ce programme de cantines scolaires sera financé sur fonds propres du gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment du Programme alimentaire mondial PAM et de l'Agence française de développement. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou, confirme la volonté du gouvernement d'étendre progressivement les cantines scolaires sur l'ensemble du pays. Le thème qui est retenu cette année dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire est assurer l'accès à des repas nutritifs, à l'eau propre et à l'hygiène, promouvoir la sécurité et la résilience dans chaque investissement pour les repas scolaires. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Soutien à l'éducation des filles, l'Institut technique médical de Yangambi, dans la province de la Tchopo, est à l'honneur. 8 élèves de cet établissement ont reçu des bourses d'études octroyées par le projet POMI sous promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Cela a eu lieu vendredi dernier lors d'une cérémonie solennelle devant les autorités locales. Entre motivation du projet, accueil des acteurs éducatifs, Jacques Moukonkole nous fait un gros plan sur cette initiative de protection et de promotion scolaire.
Pour Promis, en ciblant l'ITEM Yangambi, une école technique, le projet parie sur la compétence professionnelle. L'objectif est de transformer ces 8 jeunes filles en actrices économiques indépendantes. La durée de cette bourse est de 3 ans, comme l'explique Didier Kamanga, coordonnateur de l'association Bien-être Familial, membre du consortium de partenaires de ce projet.
La bourse couvre une période de 3 ans. L'objectif est d'aider les filles à terminer les études secondaires. Si nous prenons les élèves à la classe de première année, à la fin de la pause, on ne saura pas les diplômes.
Du côté des autorités scolaires, cette dotation est accueillie avec un immense soulagement. Pour le préfet de cet établissement, Madame Victorine Munganga, ce geste du projet Promis est perçu comme un souffle nouveau qui vient renforcer la motivation au sein de l'établissement.
Ça lège vraiment la charge des parents et tout ce que ces parents ont payé pour leurs filles depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui où nous avons reçu cette visite sera remboursé à
Toutefois, ce précieux sésame s'accompagne d'une exigence de rigueur absolue. Le droit à l'échec n'existe pas. Cette bourse prévue pour 3 ans est un contrat de performance. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, l'organisation Action pour la protection civile et le développement demande au Programme national de lutte contre le VIH-SIDA, PNLS, ainsi qu'à d'autres partenaires nationaux et internationaux d'intensifier les actions de prévention et de réponse dans la lutte contre le VIH-SIDA dans les territoires de Rutshuru, selon le rapport d'une enquête qu'elle a menée la semaine dernière dans les aires de santé de Kako, Kalingira, Rubare et Ruseke. Des jeunes ne connaissent pas les mesures de prévention du VIH. C'est une situation qui inquiète, d'autant plus qu'en 2025, cette organisation a répertorié près de 1000 cas de décès liés au VIH-SIDA sur une période de 7 mois dans ce territoire. Pour le secrétaire exécutif de cette organisation, il faut agir et rapidement. On écoute Innocent Tui Sabé au micro de Rosalie Zawadi.
Face à cette situation, nos recommandations sont claires. Renforcer le dépistage dans toutes les zones de santé avec campagne mobile et accessible aux populations. Garantir la continuité des traitements antirétroviraux en rétablissant et sécurisant les chaînes d'approvisionnement. Protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles en mettant en place des mécanismes de prévention et de prise en charge. Réactiver les aides humanitaires suspendues car elles sont vitales pour la survie des malades et la prévention des nouvelles infections. Coordonner les efforts entre l'État, les ONG et les partenaires internationaux en fait d'assurer une réponse intègre et durable.
Avant de quitter le Nord Kivu, sachez que le centre d'accompagnement psychosocial de Moussiba, localité située entre la ville de Butembo et le territoire de Lubero, fait face à une pression croissante des malades. Le mois dernier, donc en février 2026, il a reçu plus de 100 patients souffrant de déficience mentale, principalement des déplacés fuyant l'insécurité. Selon Jérôme Tamos, psychologue et responsable du centre, l'infrastructure et les ressources financières sont largement insuffisantes pour répondre à cet afflux. Il appelle les humanitaires et le ministère congolais de la Santé à renforcer la prise en charge de ces populations vulnérables. Il le dit au téléphone de Martial Papimukeba.
Avec le problème de déplacement imposé par les sécurités dans notre milieu, nous sommes en train d'enregistrer plus de déplacés justement sans aucune assistance. Parfois, d'autres qui viennent dans des institutions qui tentent de les héberger, on les fait accompagner seulement par des lettres qui montrent qu'ils sont des déplacés, mais sur le plan justement financier, il y a encore des souffrances. Seulement, on ne sait pas justement comment ils peuvent s'acquitter de leurs frais de soins. Et c'est pourquoi nous avons toujours lancé des messages aux ONG. Et peut-être via aussi notre service, le ministère de la Santé du gouvernement congolais, il faut qu'on voit peut-être les mesures, comment épauler se déplacer, mais aussi lorsque nous avons des difficultés justement de les recevoir, beaucoup d'entre eux peuvent rester aussi dans la communauté sans soins et ça consiste aussi d'entière. Pour le moment, avant qu'on finisse même ce mois de février, nous avons pu recevoir plus de 100 malades et cet effectif énorme nous crée justement des inquiétudes par rapport aussi à notre capacité d'accueil, à la dotation des médicaments, autres besoins justement dirigés par rapport aussi à leur prise en charge.
Actualité internationale.
Tôt ce mardi, l'armée israélienne a lancé de nouveaux ordres d'évacuation de dizaines de localités du Liban. Les résidents des deux quartiers du sud de Beyrouth ont notamment été sommés de se tenir éloignés de plusieurs immeubles en prévision d'une opération annoncée comme imminente. La veille lundi, l'armée israélienne avait affirmé son intention de renforcer ses frappes contre le Liban, promettant d'infliger un lourd tribut au Hezbollah après des tirs de roquettes et de drones attribués au mouvement soutenu par l'Iran, rapporte africanews.fr.
L'invité.
Il s'agit de Paul Kabingwa, directeur des ressources humaines au secrétariat du ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire. Il s'exprime sur la mission effectuée au Maniema dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la campagne agricole 2025-2026. Paul Kabingwa s'entretient avec Florence Kizalunga.
Kabingwa Bundia, Paul, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026, vous avez sillonné la province du Maniema. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu récolter durant votre mission ici en province?
Oui, merci beaucoup Madame. D'abord, vous rappelez que nous sommes venus dans une mission de suivi et évaluation de la campagne 2025-2026, comme vous l'avez dit, et aussi faire un état des lieux de nos centres où nous comptons produire les semences améliorées, les CAPSA. Il faut aussi ajouter à cela l'identification du personnel. Nous avons aussi fait l'état des lieux de nos bâtiments, mais comme nous pouvons dans un premier temps vous briefer, la situation n'est pas encourageante parce que les centres de CAPSA sont presque abandonnés. Les routes de desserte sont aussi telles que vous les connaissez. Nos personnels presque vieillissants, les bâtiments et aussi les conditions de travail ne sont pas comme souhaité.
À part ces constats, vous avez pu aussi sensibiliser les associations, les demandant de se réunir dans une coopérative. Ce que vous voulez transformer les associations à des coopératives agricoles. Pour quel but?
Exactement, les ministres d'État, ministre de l'Agriculture, son excellente Mouindo Zangi, insiste sur le fait d'organiser les paysans en coopérative. Parce que comme c'est facile à comprendre, l'union fait la force. Lorsqu'on agit individuellement, c'est compliqué. Et comme je vous disais, nous voulons, dans la stratégie du ministre d'État, il voudrait disponibiliser suffisamment de semences à tous les agriculteurs et des semences de qualité, des fertilisants et même des pesticides à tous les agriculteurs. Il voudrait disponibiliser les tracteurs, mais cette fois-là, les tracteurs ne seront pas distribués aux politiciens, mais les tracteurs seront gérés par une brigade de motorisation agricole. Cette brigade sera gérée par les services nationaux de motorisation agricole, de sorte que lorsque quelqu'un a besoin d'embraver son aire agricole, il ne lui sera plus nécessairement obligé d'avoir un tracteur à lui. Il pourra s'adresser à cette structure qui pourra lui emprunter les tracteurs. Évidemment, il faut débourser quelques frais. Et lorsque le travail est fini, on reprend les tracteurs pour les autres qui en auront besoin. Il compte aussi construire des lieux de stockage des produits parce que nous comptons produire en abondance. Nous comptons aussi créer des usines pour transformer ce que nous produisons et faciliter la commercialisation. Et là, je pense à nos amis du roman rural qui doivent nous accompagner dans l'amélioration des voies de desserte agricoles. Les minetans insistent également dans sa stratégie sur les cultures pérennes, parce que l'impression que nous avons est que l'agriculture, c'est une affaire des pauvres. Nous voulons cette fois-ci qu'il faudrait que les sols prennent la revanche sur les sous-sols. Nous avons beaucoup compté sur les minéraux, mais nous ne sommes pas allés plus loin. Nous estimons que avec l'agriculture cette fois-ci, il faudrait que l'agriculteur soit en mesure de vivre sa vie normalement. C'est comme ça qu'il insiste sur les cultures pérennes, où nous estimons que nous, ça c'est généralement des cultures pour exportation, et lorsqu'on exporte, évidemment on va en devise, et je crois que lorsque nous faisons entrer des devises, ça va profiter et pour le pays et pour l'agriculteur lui-même, résoudre cette question, non seulement de l'insuffisance alimentaire, mais surtout aussi de la pauvreté des agriculteurs.
C'est par quel mécanisme que vous allez transformer les associations en coopératives?
Bon, c'est ça le rôle de l'État, hein, organiser la société. Nous allons leur demander de regrouper, nous allons leur faciliter aussi l'obtention des documents pour leurs différents agréments.
Vous voulez aussi que les agriculteurs puissent migrer vers la culture pérenne, mais ils vous accusent de pouvoir chaque fois amener les semences en retard. Vous ne respectez pas les calendriers agricoles.
Oui, ils ont peut-être raison, mais parce que ça, c'est par rapport à l'exécution du budget. Il y a un problème des chaînes de dépenses. Les priorités du budget et finances ne sont pas nécessairement les priorités du ministère de l'Agriculture. Mais je profite pour informer à la population que nous allons maintenant vers la déconcentration. Cette déconcentration voudrait que nous passions au budget programme. Avec le budget programme, chaque ministère aura un compte où sera logé son argent. Donc, pour décaisser, on n'attendra plus la chaîne de dépenses où il fallait la liquidation, il fallait beaucoup de choses pour arriver à percevoir ce qu'on doit. Donc, avec la déconcentration des finances, je crois que ça va nous aider à commencer à respecter les calendriers agricoles.
Kabingwa Bundia Paul, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Paul Kabingwa, directeur de ressources humaines au secrétariat du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Alain Rung et Élisée Chikota Chivuita, avec Dieudonné Nyangasa à la technique, Babel Pongoma Simango à la présentation. Excellent après-midi.